Il est 19h.
RTBF Mobile Info.
On retrouve Armelle Delmel pour l'Inforoute. Bonsoir Armelle.
Bonsoir.
Alors il semble que ce soit calme, par contre il va falloir être vigilant cette nuit.
Oui, effectivement, l'IRM a émis un avertissement en conditions glissantes à partir de 21h pour les provinces de Liège et Luxembourg, avec des possibilités d'averses hivernales sur les hauteurs et également des plaques de glace ou de givre qui pourraient se former pendant la nuit, donc soyez prudents par là. Et puis entre temps, on a eu quand même un petit événement sur la route, c'est un accident sur le ring de Bruxelles à hauteur de Jette en direction de Hall, et la bande de droite est obstruée. Puis on nous signale aussi cet accident sur la Nationale 6 à hauteur de Braine-le-Comte en direction c'est dans les deux sens que la route est bloquée, puisque la circulation se fait de manière alternative sur une seule bande avec la possibilité de fil.
Vos messages mobilité 0800 48 400.
Votre émission avec Diamante, carottage, sillage, ponçage du béton, soutien de la Belgian Motorcycle Academy.
RTBF Classic 21, You Rock.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe.
Elvis Presley, bien sûr, Blue Suede Shoes.
Classique 21, sport moteur.
Avec Dominique Tricot.
Bonsoir, bienvenue dans notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des sports mécaniques. Et l'actualité, ben, ce week-end, c'est notamment le MotoGP au Texas. On rejoint Didier de Radiguez pour nous en parler. Bonsoir Didier.
Oui, bonsoir Dominique.
Tout d'abord, un bon anniversaire avec un jour de retard, mon cher Didier.
Ah, pas mal. Oui. Merci, c'est bien gentil.
Et comme je vous l'ai déjà dit les années précédentes, je tairai votre âge puisque nous avons à peu près le même.
Voilà. Très bien.
Alors, tout frais, tout chaud, hein, les qualifications viennent de se terminer, en tout cas la Q1 vient de se terminer en Moto3. Un bilan, puisque décalage horaire oblige évidemment, bientôt la course sprint va démarrer en MotoGP. Quelle est l'analyse que vous faites jusqu'à présent de cette course qui d'habitude réussit à Marc Marquez?
Oui, c'est le circuit fétiche de Marc Marquez, oui. Ce circuit d'Austin, hein, le rodéo du Texas. Donc, il a gagné de nombreuses fois. C'est vrai qu'il est extrêmement rapide sur ce circuit qui tourne à gauche. Il apprécie toujours les circuits qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais ce week-end, il a un peu plus de mal. Enfin bon, non, il est là, mais disons qu'au qualif, il a un peu raté le coche, parce que la majorité des pilotes MotoGP se sont pris pour des pilotes Moto 3 cette fois-ci. Donc, ils ont joué au chat et à la souris, se sont attendus. Et dans ces conditions-là, bien souvent, ça tourne mal. Et ça n'a pas tourné pour le mieux pour Marc Marquez, qui est donc seulement sixième.
Ben oui, seulement sixième, même son équipier est devant lui. Bien, alors, on remarque évidemment, après les deux premières courses, les Aprilia, elles sont en forme. Qu'est-ce qui fait leur force à ces Aprilia cette année ?
Le point fort d'Aprilia, c'est l'aérodynamisme. Donc, ils sont très forts, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont un petit peu d'avance sur les autres. D'ailleurs, ici, pour tout à coup, aujourd'hui, Ducati a sorti des équipements, des accessoires aéro, tout à fait copiés des Aprilia.
Ah oui.
Donc, il n'y a pas que moi qui m'en suis rendu compte, mais c'était leur point fort. Et tout de suite, ils ont essayé, ils ont adopté, que ce soit Marquez et Bagnaia, il y a du mieux. Donc voilà, c'est leur point fort, mais bon, c'est quand même toujours aussi disputé, le MotoGP.
C'est clair.
D'ailleurs, vous alliez le dire, mais je vais le dire avant vous, c'est une Ducati qui est en tête quand même.
Ah ben quand même, bien sûr, vous avez raison. mais c'est assez étonnant de voir à quel point... Enfin, c'est aussi... c'est tant mieux pour l'intérêt du championnat, évidemment. Mais l'année dernière, les Aprilia, qui parfois avaient une belle pointe de vitesse, elles n'étaient pas toujours régulières. Or, bon, ici, évidemment, ce n'est jamais que le troisième circuit, mais elles semblent dans le coup un petit peu partout jusqu'à présent.
Bien. Oui, ils avaient un peu de retard. Ils ont comblé leur retard. Alors, on est pas très constant au début, et puis chaque année ils sont plus forts, et maintenant c'est peut-être la meilleure moto.
Vous savez où ils vont tester leur moto en soufflerie, parce que je pense que Ducati forcément c'est chez Audi, et on sait que Audi a été brillantissime aux 24 heures du Mans, et apparemment ils se débrouillent déjà bien en Formule 1, mais Aprilia ils vont où?
Je pense qu'ils sont très proches. C'est le groupe Piaggio. Je pense qu'ils sont très proches de Ferrari. Le directeur de course de chez Aprilia est un ancien de chez Ferrari. Il y a des connexions.
On peut dire qu'il y a des connexions, en effet. Tant mieux. Ce qui fait plaisir aussi, moi j'ai été très ému, et lui encore plus, Jorge Martin qui revient dans le coup, ça fait plaisir quand même.
Oui, ça fait plaisir, et surtout qu'on sait qu'il n'est pas encore à 100%.
Non.
Il a commencé la saison après tout le monde, et il n'a pas eu les essais hivernaux comme tout le monde, donc ça fait vraiment plaisir de le voir. Il est 7e sur la grille pour tout à l'heure et pour demain.
D'accord. Vous pensez que cette saison, ça va être un petit peu plus difficile pour notre ami Marc Marquez ?
Oui, parce qu'il n'est pas à 100% non plus.
Et,
lui non plus n'a pas pu avoir les essais hivernaux qu'il aurait voulu, puisqu'il s'est blessé en fin de saison dernière. Et puis, il n'a même pas participé aux quatre derniers Grands Prix, ce qui ne l'a pas empêché d'être champion du monde.
Oui.
Mais il n'a pas participé aux essais hivernaux. Il n'est pas encore rétabli à 100%. Il a un an de plus, comme moi, mais bon, ça fait plus de différence pour un pilote MotoGP professionnel. Tous ces éléments-là font que il n'est pas au mieux de sa forme, mais c'est pas le meilleur Marquez qu'on ait connu. Donc forcément, ce sera plus dur, les autres sont plus proches de lui.
Oui, ça klaxonne derrière, comme j'aime bien dire. Et puis, il y a Acosta aussi avec la KTM qui est brillantissime. Bien, alors, on va parler d'un de nos sujets préférés, évidemment. Barry Baltus, il semble qu'il ait bien démarré son week-end cette fois.
Oui, il a très bien démarré. Après les deux premiers Grands Prix, c'était deux Grands Prix décevants, même s'il était dans les points et qu'il y avait des circonstances atténuantes, disons, c'était des Grands Prix compliqués, mais malgré ça, Barry, et tout le monde a remarqué qu'il n'était pas à sa place. Donc il y a eu une grosse remise en question et de Barry et du team. Chacun a assumé ses responsabilités. Et donc Barry a un petit peu pointé quand même. Il a dit j'en sais rien, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que je fais tout bien, aussi bien que l'an dernier. Mais les chronos ne viennent pas aussi facilement. Il faudrait pas regarder du côté de la moto, voir s'il n'y a pas quelque chose. Alors on a beaucoup cherché dans le team. Les ingénieurs sont penchés très près sur les acquisitions de données et sur toutes les données qu'ils ont. Qu'ils peuvent analyser, et on a remarqué quand même quelque chose, même si c'est pas flagrant, on a remarqué une température moteur un tout petit peu trop haute. Oui. Donc on a travaillé dans ce sens-là. Et eh bien, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Mais en tout cas, dès la première séance, ça refonctionnait comme l'an dernier, donc c'est parfait.
Oui, troisième des free practice, hein, j'ai vu tout à l'heure. Oui. Bon, maintenant le gros du boulot reste à faire. On est d'accord. Alors, oui. Justement, qu'est-ce que vous attendez de Barry cette année? On se souvient qu'il a réalisé une saison exceptionnelle l'année passée. Ben, on remet tout à zéro, évidemment. Pour avoir l'espoir d'aller en MotoGP, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit gagner des courses? Il doit être champion du monde?
Oui, avant de penser MotoGP, lui en tout cas, son management c'est autre chose. Oui. Mais Barry, avant de penser MotoGP, il doit évidemment d'abord mériter le MotoGP. Et mériter le MotoGP, ça veut dire gagner des courses, être dans les trois premiers du championnat, ce qu'il a fait, ça c'est bien, mais il n'a pas encore gagné, il n'a pas encore vraiment dominé la catégorie, et c'est ce qu'il faut. D'accord. pour se dire « Ah, là, je suis prêt pour monter en MotoGP ». Donc voilà, ce qu'on attend, enfin, c'est surtout lui, ce qu'il attend de lui, c'est ça, c'est de pouvoir faire une très très belle saison, marquer la saison de son empreinte, mm-hmm. et à ce moment-là, il méritera la MotoGP, et à ce moment-là, ce sera à son management, dont je fais partie, oui. de lui trouver la meilleure moto possible en MotoGP.
D'accord, ben merci beaucoup Didier de Radiguez pour cette analyse. On croise les doigts évidemment pour notre compatriote.
Le qualif, c'est bientôt.
Ah hein, oui, c'est pour ça que oui. On va vous libérer, oui. Parce que je pense que vous allez être voilà. Très concentré sur le sujet.
Exactement.
Comme sur la course sprint d'ailleurs, et puis on rappelle bien entendu, le MotoGP, c'est sur la RTBF et c'est gratuit. On vous souhaite une excellente soirée.
Merci, bonne soirée à tous.
I'm
Got Me Rocking. C'est pas moi qui le dis, c'est Mick Jagger et ses copains. Allez, maintenant, on parle avec quelqu'un qui ne cesse de nous impressionner, de rebondir toujours un peu plus haut, un peu plus loin. Sarah Bovy, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Sarah, mais oui, hein, vous n'arrêtez pas de nous surprendre, vous. Hein. On se souvient, l'année dernière, on était triste que l'aventure Iron Dame se terminait. Bon, ben voilà, hein, fin du programme. Une belle aventure, comme vous nous aviez eu la gentillesse de nous l'expliquer à l'antenne. Et puis, vous avez trouvé un super boulot sur une télévision commerciale française, dont je ne citerai pas le nom. Mais en tout cas, vous essayez de belles voitures à cette occasion. Et puis là, cette semaine, on a appris quelque chose d'assez révolutionnaire dans le monde très machiste du sport automobile. Vous allez être grand marshal aux 24 heures du Mans. Alors d'abord, expliquez-nous en quoi ça consiste, Grand Marshal.
Oui, tout à fait. Bah, effectivement, c'est quelque chose qui m'a surpris moi-même lorsque j'ai reçu le coup de fil, puisque le grand marshal, c'est un rôle un peu honorifique durant la semaine des 24 heures du Mans. Et,
oui.
et le grand marshal, c'est un peu la personne qui représente les pilotes automobiles du monde entier dans tous les événements un petit peu de présentation, de représentation qui tournent autour de cette course légendaire. Le grand marshal, c'est un ambassadeur en fait du sport automobile en tant que pilote de course.
Mmh.
Et c'est vrai que historiquement, c'est un rôle qui a plutôt été confié à des pilotes qui avaient une expérience un petit peu plus fournie que la mienne, on va dire, puisque avant moi, on a eu des noms comme Jackie Hicks, Tom Christensen,
oui.
Derek Bell. Enfin voilà, il y a eu
Pescarolo,
Marc Webber, etc.
Oui.
Exactement.
Oui.
Donc voilà des noms assez légendaires et je pense qu'effectivement c'est une superbe opportunité pour moi de représenter mon sport et de représenter l'endurance en général, qui est vraiment la discipline qui a fait ma carrière. Et entre autres, dans mes responsabilités de grand marshal, j'aurai l'extrême honneur d'ouvrir le bal, puisque je serai au volant de la leading car pendant toute la procédure de départ des 24 heures du Mans avec les 62 concurrents qui seront derrière moi.
Quand même, hein, ça va donner la chair de poule à plein de gens, rien que d'y penser. C'est déjà mon cas.
Alors, moi la première.
Bah oui, quand même. Donc c'est une. Quand on vous a téléphoné, vous êtes un peu tombé de votre chaise. Vous y attendiez pas ?
Pas du tout, absolument pas.
Ah bon ? Et c'est un coup de fil qui remonte à longtemps ou ça fait quelques jours ?
Non, je pense qu'on m'a annoncé ça il y a environ un mois.
D'accord.
Effectivement, c'est le président de la CEO, Pierre Fillon, qui m'a passé un petit coup de fil en commençant par me demander si j'avais des solutions ou des pistes pour rouler aux 24 heures du Mans, puisque on ne peut pas être grand marshal et participant aux 24 heures. Donc voilà, je lui ai dit que j'avais pas la joie d'être au volant cette année. Et il m'a dit, écoute, alors on aimerait que tu sois notre grand marshal. Je lui ai demandé si c'était une blague, parce que je lui ai dit, bon, c'est pas bien de se moquer, quoi. mais non, pas du tout, il était très sérieux et donc évidemment j'ai tout de suite accepté avec beaucoup d'émotion de prendre ce rôle, parce que les 24 heures du Mans pour moi c'est plus qu'une course. C'est vraiment quelque chose qui représente tout ce qu'on aime dans le sport automobile et dans l'endurance. Donc c'était pour moi d'autant plus important d'y avoir un rôle actif.
Mais quand même, hein, c'est extraordinaire. Alors, on se souvient, vous l'avez souligné, hein, jusqu'à présent, c'était un rôle qui revenait à des gens qui avaient fait une grande carrière, mais qui ne roulaient plus. Est-ce que la philosophie de la CEO, les organisateurs des 24 heures, est-ce que cette philosophie a changé? Ou est-ce que vous dites, bah non, je vais tourner définitivement la page, en tout cas pour les 24 heures du Mans?
Alors, quand j'ai regardé un petit peu la liste des pilotes qui sont passés avant moi, je me suis dit, effectivement, je suis la première femme à prendre ce rôle, mais je suis aussi, je pense, une des toutes premières pilotes à ne pas avoir gagné Le Mans à prendre ce rôle. Et ça, j'en suis tout à fait consciente. Mon ambition, c'est de me dire qu'il serait peut-être possible un jour de pouvoir dire que j'ai été le premier grand marshal à remporter les 24 heures du Mans après avoir rempli ce rôle. Mon ambition, elle est toujours là. Et effectivement, je suis pas du tout un pilote à la retraite. Je suis un pilote actif et j'ai tout à fait l'intention de me battre pour revenir un jour au départ de cette grande course, mais de manière générale continuer à courir sur tous les circuits du monde et à continuer ma carrière.
Mais génial, hein ? Parce qu'en plus, quelques jours avant cette annonce, on a appris que vous aviez fait des tests avec l'équipe Come to You sur une Aston Martin. Ça veut dire que vous espérez toujours rouler aux 24 heures de Spa en fin juin ?
Ben, ça veut dire effectivement que je multiplie les contacts avec différents teams et je suis en contact avec l'équipe Come to You depuis de nombreuses semaines, même des mois, puisque on a commencé à discuter fin de l'année dernière pour essayer de trouver des solutions, pour même faire des saisons, une saison complète chez eux. Moi, ayant été dans une situation où je me suis retrouvé absolument sans budget, à la fin du mois de décembre, c'était compliqué de tout rassembler en temps et en heure, mais ils ont été très très chouettes parce qu'ils ont vraiment continué à m'inclure dans leur projet et à me faire des propositions et à essayer de trouver des solutions pour que je puisse les rejoindre sur l'un ou l'autre événement. Il se trouve que là effectivement j'avais la possibilité de tester la voiture puisque je la connaissais pas du tout, donc c'était un petit one shot pour faire un peu connaissance avec le team, la voiture, voir un peu comment je me sentais. Et pour le reste, voilà, on est encore en train de travailler sur différents projets. Depuis le début de l'année, je le dis, être au départ des 24 heures de Spa, c'est mon objectif principal de la saison. Et j'espère effectivement que ça se concrétise très très bientôt.
Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre studio à cette occasion, bien entendu. On vous souhaite une excellente soirée, Sarah Bovy. Ça nous a vraiment fait plaisir, une fois de plus, d'entendre votre témoignage, votre enthousiasme. Mais vous n'allez pas vous arrêter là, on en est persuadé. À très bientôt.
Merci, au revoir.
On écoutait Keen, Silenced by the Night. Allez, cette fois, on parle motocross avec quelqu'un qui s'y connaît vachement dans le domaine, et pour cause, Christophe Bertrand. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Dominique.
Christophe, on rappelle, hein, vous avez été vous-même pilote en Grand Prix à une époque, et puis vous avez été brillant aussi en enduro. Pourquoi on vous appelle ? Ben parce que vous êtes quelqu'un qui connaît bien la discipline, le motocross, et là on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel avec cette explosion des jumeaux Kunen à l'échelle mondiale. C'est formidable quand même, hein. Personne n'aurait cru à ça il y a quelques années encore.
Bah, disons que on les voyait venir, hein. Ça fait quand même un petit temps que le monde de la bécane suit les deux frangins, les deux jumeaux, hein, donc.
Oui.
Après, bah, effectivement, les trois dernières années, bah, ils sont montés crescendo. Sacha, a toujours un petit peu de mal avec son petit physique. Mais on voit qu'il s'est quand même renforcé cet hiver-ci. D'ailleurs, il vient encore de gagner aujourd'hui en Suisse.
Exact.
C'est le troisième Grand Prix de l'année. Sa manche qualificative. Trois fois d'affilée d'ailleurs, Argentine, Espagne et Suisse. Et il est positionné maintenant troisième au mondial. Et puis Lucas, hein, son grand frère par la taille, qui lui est monté dans la catégorie Run l'année dernière. Et à la grande surprise, effectivement, il s'est fait immédiatement à la catégorie avec les gros bras. Malgré son très jeune âge, puisqu'à ce moment-là, il avait 18 ans.
Oui.
Consistant, physique, début de saison compliqué, puisque il était blessé aux deux poignets. On avait passé ça un petit peu sous silence, mais il était bien entamé avant de commencer sa saison. Et puis, il y était allé crescendo pour finalement échouer de très peu au niveau du titre mondial pour la première année en MXGP, donc derrière le Français Romain Febvre. Hein,
oui.
Et ça s'est passé à la dernière manche, donc.
Oui, donc c'est génial, hein, c'est formidable ce que ces deux garçons réussissent. Vous l'avez dit, Sacha aurait un physique un peu moins costaud que son frère, c'est la raison pour laquelle il est toujours en MX2 et que son frère est en MXGP.
Bon, je pense que aussi c'était un peu compliqué pour les parents d'avoir les deux gamins dans la même catégorie qui se tiraient la bourre. Je pense qu'il y a aussi eu probablement une stratégie du groupe KTM de répartir un petit peu les forces puisque l'un et l'autre sont hyper talentueux. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue on va dire confiance, pilotage posé et maturité surtout. Je pense que Lucas a pris effectivement un ascendant. Mmh. Sacha est beaucoup plus énergique, c'est un pitbull hein, sur la bécane. D'ailleurs, malheureusement, sa fougue ne paye pas toujours.
Oui.
Mais Lucas a réussi, lui, à mettre toutes les pièces du puzzle dans le bon sens. Et effectivement, il est en tête du championnat du monde actuellement après trois épreuves. Il vient encore de terminer deuxième des qualifications aujourd'hui, derrière le Hollandais Erlings, qui se positionne vraiment comme son plus grand concurrent, adversaire, au niveau de la constance en tout cas.
Vous pensez justement que c'est entre Jeffrey Erlings et Lucas Kunen que ça va jouer ce titre?
Bon,
on est tout au début,
la
évidemment.
La saison est hyper longue, la saison est hyper longue, c'est du motocross, donc on sait bien que c'est comme un MotoGP, il n'y a pas de carénage, il n'y a rien du tout autour comme une voiture en sport mécanique. Et donc le motocross, un des sports les plus exigeants au monde, que ce soit physiquement et même au niveau des impacts en cas de chute. Les gars, ils vont de plus en plus vite. Hein. Donc, le niveau est super relevé en MXGP cette année-ci, avec énormément d'anciens champions du monde. Je pense qu'on a rarement vu une saison aussi ouverte, avec autant de prétendants au titre. Et encore une fois, on n'est vraiment qu'au troisième Grand Prix, mais on voit déjà que on voit les hommes forts. Maintenant, il y a des gars qui vont progresser évidemment. Dans les mois qui viennent, parce que il y a eu des changements de moto, ce qui est un avantage aussi pour Lucas, qui cette année-ci est resté sur sa KTM, une moto qu'il a bien pris en main l'an dernier, et lui il a passé un super hiver, il s'est bien renforcé, ils sont basés dans le sud de la France, le team est en Italie, ils ont bénéficié d'un bon climat, donc je pense que là, cette année-ci, tout est aligné pour que ça se passe super bien. Maintenant, effectivement, il faudra éviter les petites bêtises, hein, de perte de gros points. Ça veut dire quoi? Ça veut veut dire un DNF, un abandon, et évidemment les blessures, parce que ça, c'est malheureusement compliqué pour un pilote de motocross de passer une saison complète sans blessure.
Merci en tout cas Christophe Bertrand pour votre témoignage. On croise les doigts pour les frangins et pour les autres évidemment.
Et puis nous, on va espérer encore entendre la
Brabançon
demain matin, demain après-midi, une fois de plus.
On vous souhaite une excellente soirée. Nous, on s'en va sur la pointe des pneus. Merci à la MAB pour cette direction technique.
Sport moteur avec Fedemot, Zelos et le moniteur.